Bienvenue dans le podcast Le Procès du siècle, Délibération citoyenne.
Une série d'entretiens imaginés et produites par le MUCEM, Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée.
Pour cette première saison 2021-2022, il sera question de nous
et de l'usage que nous faisons du monde.
Par exemple, allons-nous vider les océans?
Face au dérèglement climatique, est-il trop tard?
Avons-nous encore la maîtrise du temps?
À chaque épisode, nous appellerons à la barre des excès de nos sociétés contemporaines et irons, avec Lionel Bordeaux et Anne-Cécile Bras,
à la rencontre de deux experts et de paroles citoyennes.
Bonjour, l'audience est ouverte, l'accusé est à la barre, l'humanité, 200 000 ans d'existence et nous voilà près de 8 milliards d'homo sapiens à vivre à la surface de la Terre. La victime, l'océan mondial, pollué, acidifié, surexploité, cette vaste étendue d'eau salée qui recouvre les deux tiers de la planète fascine et effraie. Nous commençons à mieux connaître son fonctionnement et ses habitants grâce aux travaux scientifiques qui se multiplient. Nous savons désormais que nous lui devons la vie et qu'il est essentiel à l'équilibre climatique de la Terre. L'heure du premier procès du siècle est donc arrivée. Ce procès est le premier d'un cycle qui va se dérouler ici, à Marseille, au MUCEM. Pendant 4 mois, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée organise tous les lundis un procès du siècle. Des délibérations citoyennes sur les excès de nos sociétés contemporaines qui impactent l'animal, le temps, l'espace ou le végétal. Cette semaine, le public doit trancher. Allons-nous reconnaître notre culpabilité dans la détérioration de l'océan et être condamnés à le préserver ? Nos deux experts qui vont instruire ce procès du siècle sont François Sarano, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes un océanographe plongeur, vous avez été le conseiller scientifique pour des expéditions dans le monde entier, notamment une vingtaine d'expéditions avec la Calypso du commandant Cousteau, et avec votre association Longitude 180, vous étudiez en ce moment et depuis de nombreuses années déjà une population de cachalots au large de l'île Maurice, vous allez nous en parler. Second expert, Philippe Curie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes président du conseil scientifique de l'Institut océanographique de Monaco et l'un des grands spécialistes mondiaux de la pêche. Alors, avant de dresser un rapide état des lieux de l'océan, comme nous sommes dans un procès, j'appelle à la barre un premier témoin.
Oui, bonjour. Non, je me présente, Roger Millot, restaurateur et cuisinier à Sète. Mon restaurant, l'Hippocampe, propose bien entendu la tielle sétoise et une cuisine basée uniquement sur les produits de la mer. La menace de la disparition du thon rouge à Méditerranée m'a fait prendre conscience de certains problèmes écologiques. Je travaille beaucoup avec des pêcheurs locaux et dans le souci du respect autant que faire se peut des équilibres naturels. C'est ainsi que nous proposons rarement du thon rouge, même si j'adore ça. Par contre, nous venons de bannir le saumon. Bon, bien sûr, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, le saumon va encore être servi sur une quantité de tables. L'autre jour, j'ai vu qu'une grande chaîne de distribution proposait du saumon à 9,90 € le kilo. 9,90 €. C'est, passez-moi l'expression, se foutre de la gueule du monde. Comment c'est possible? Alors j'ai essayé de comprendre et j'ai fait ma petite enquête. Bon, c'est du saumon d'élevage, ça je le savais, mais ce que je ne savais pas, c'était les conditions d'élevage. Alors on s'insurge contre l'élevage des poulets, des cochons, les fermes aux 1000 vaches, mais c'est pareil, hein. C'est pas 1000 vaches, c'est milliers de saumons. Des milliers de saumons qui nagent les uns sur les autres. Ah, en fait, c'est pire. Parce que ça, on le voit pas. C'est sous l'eau, c'est caché. Par exemple, ils ont des poux que l'on soigne avec des pesticides et on les retrouve dans les déjections des poissons. Et les déjections des poissons, ça peut faire des tas de 15 mètres de haut dans les bassins. Et après, ça se dissout lentement dans l'eau et ça empoisonne tout ce qu'il y a autour. Hein. Et je vous parlerai pas de l'alimentation qu'on leur donne, hein. Des farines végétales et de la farine de poisson. Bah, vous me direz, où est le problème? Un poisson, ça mange du poisson, non? Bah, le problème, c'est que cette farine, elle est fabriquée avec la pêche intensive de poissons et de restes de poissons invendables. Et cette surpêche, elle a des conséquences graves pour certaines populations, notamment en Afrique de l'Ouest, par exemple. Ça crée de l'insécurité alimentaire. Bon, mais tout ça, vous le savez peut-être déjà. En tout cas, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ils peuvent trouver plein d'infos sur le net. Hein. Ça sert aussi à ça, le net. En tout cas, ça leur passera l'envie de manger du saumon gravlax pour les réveillons. Bon, qu'il soit d'élevage ou pas, d'ailleurs, parce que le sauvage, ma foi, c'est pas beaucoup mieux. Hein. En plus, il paraît que ça va pas s'arranger. L'autre jour, j'écoutais une émission à la radio qui parlait de l'impact de la surpêche et du réchauffement climatique sur les océans. Enfin, tout ce qui touche à la mer m'intéresse. Eh bien, un spécialiste, un professeur dont j'ai oublié le nom, mais bon, c'est pas très important, disait que l'espèce la mieux adaptée au réchauffement climatique, c'était la méduse. Eh oui, la méduse. Et que si on maintenait la vitesse de réchauffement actuelle et le rythme de surpêche, ben c'est tout ce qu'on pourra pêcher dans 20 ou 30 ans. Ah, c'est pourquoi j'ai une suggestion pour le réveillon. Soyez résolument d'avant-garde. Laissez tomber la cuisine moléculaire et tentez de cuisiner la méduse. Par souci d'anticipation, nous avons concocté avec mon équipe une recette à base de méduse qui s'est révélée, ma foi, très goûteuse. Il s'agit d'une blanquette de la mer composée uniquement de méduse au curry avec une pointe de cardamome et de la citronnelle. Bon, prévoyez beaucoup de méduse parce que la méduse se réduit beaucoup, c'est beaucoup d'eau. Donc pour, on va dire, 200 grammes de méduse, prévoyez bien 22 kilos, voire plus, par invité. Et puis bon, si jamais ça ne vous satisfaisait pas et si vous vouliez pas vous embêter la vie, eh ben écoutez, vous pouvez toujours faire un carpaccio de méduse avec un vinaigre iodé sur un lit de taxifolia. Hein. Une chose est sûre, l'effet de surprise sera assuré. Et en attendant, bonne fête à tous.
Merci beaucoup, Eric, pour cette lecture. Je précise que ce témoignage a été préparé par les participants au gymnase des orateurs. C'est un atelier régulier proposé au public du MUCEM et l'objectif de cet atelier est double, s'exercer à l'art de la rhétorique et mener l'enquête sur les thématiques du procès du jour. Philippe Curie, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ? Ça vous tente un petit ceviche de méduse, oui, pour le réveillon ?
Là, on fait le procès de la méduse. La méduse, c'est je dirais, un symbole, hein, un symbole fort de ce qui est en train d'arriver dans nos océans suite à la surexploitation. Les méduses, c'était, vous savez, les habitants du Cambrien. Le Cambrien, c'était flasque, un univers flasque. Et puis, voilà, avec la diversification, la biodiversité, hein, cette biodiversité qui s'est complexifiée au cours du temps, on a eu de moins en moins de méduses. Et les méduses, normalement, ce sont des habitants des océans qui doivent être assez rares, généralement. Alors, bien sûr, on a des petits blooms de méduses au printemps, mais ils ne doivent pas s'installer dans les océans comme ils le font parfois aujourd'hui. Et vous avez des exemples aujourd'hui qui sont documentés en Namibie, dans la mer Noire, même en Méditerranée, où la surexploitation de tous ces gros poissons et des poissons a conduit, ou même des poissons, ce qu'on appelle pélagiques, c'est les sardines des anchois, ont conduit au fait que donc ces poissons qui mangeaient en réalité les œufs et larves de méduses, donc à des surabondances de méduses, et on arrive même à des écosystèmes qui sont colmatés de méduses. C'est-à-dire, par exemple, en Namibie, vous avez 20 à 40 millions de tonnes qui sont là et qui sont là de façon durable depuis les années 80-90. Donc qu'est-ce qu'on pêche ? On pêche de la méduse. Alors la méduse, on vous l'a dit, le restaurateur, je ne sais pas comment il s'y prend, mais quand il met ça dans sa poêle, ça doit vite fondre parce que c'est 95% d'eau, donc il ne doit pas rester grand-chose. Les Chinois en mangent des grandes quantités, 500 000 tonnes, mais c'est des condiments. Voilà, donc...
En tout cas, est-ce qu'il faut se préparer à manger des méduses parce qu'on surexploite trop ?
On peut très bien inverser ces choses-là et gérer les ressources. Hein, il y a des endroits dans le monde où on gère les ressources et on arrive à éviter ces invasions de méduses. Donc voilà, on peut très bien maintenir les écosystèmes. C'est de l'intérêt d'ailleurs dans la gestion des ressources renouvelables, c'est de maintenir la complexité des écosystèmes. Et ça, c'est aussi une voie qu'on pourra discuter plus avant, maintenir la diversité du milieu marin.
François Sarano, comme vient de le dire Philippe Curie, ce qui est en cause, c'est pas uniquement le poisson que l'on mange, évidemment. Hein, c'est tout le fonctionnement d'un écosystème extraordinaire qu'est l'écosystème océanique.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une espèce ne se limite pas à sa morphologie. Une espèce, elle se définit par les interactions, les interdépendances qu'elle tisse avec les autres espèces et le milieu. Par conséquent, quand on supprime une espèce, ou qu'on diminue ses populations au point qu'il ne reste que quelques individus, toutes les autres espèces sont affectées, parce qu'elles ont des liens avec elles. Soit qu'elles la mangent, soit qu'elles sont mangées, soit qu'il y a du parasitisme, soit qu'il y a du nettoyage, enfin bref. Et donc, ces interconnexions qui tissent la toile du vivant, qui font que le vivant est résilient et qui est solide... Eh bien, elles s'amenuisent petit à petit, et la toile du vivant s'effiloche. Et nous sommes l'un des fils, nous les humains, de cette toile du vivant. Je dirais presque l'un des fils de cette toile du vivant. Donc si nous n'y prenons garde, nous allons à ce point déchirer cette toile que nous allons tomber nous-mêmes. Mais on insiste là sur quelque chose qui est vital, ce qui me paraît moi très grave, beaucoup plus que tout ça, c'est que nous savons ça depuis 40 ans. C'est-à-dire que depuis 40 ans, nous agissons en conscience, librement, en toute responsabilité. Autrefois, on a fait disparaître des espèces. Autrefois, nous agissions de façon inconsidérée. Parce qu'on ne savait pas vraiment, on n'avait pas vu la planète depuis les satellites, la toute petite planète bleue sur laquelle nous sommes tous embarqués, toutes les créatures vivantes. Bon, on pouvait dire, nous étions inconscients. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans un phénomène qui dit, vous les humains, vous agissez en conscience. Et c'est là où ça me paraît très grave. Parce que c'est bien de notre responsabilité dont il s'agit. Et nous, les sapiens, qui revendiquons ce titre de sapiens, avec lui tombe une chose, qui est cette responsabilité, parce que nous savons, les autres espèces ne savent pas, les anchois ne savent pas, les méduses ne savent pas, les cachalots ne savent pas. Nous, nous savons. Et donc cette responsabilité, qui est en même temps liée à notre liberté, elle fait notre humanisme. Et nous nions ce que nous sommes ou ce que nous revendiquons être en effaçant délibérément, consciemment, certaines espèces de la planète.
Vous l'avez compris dans cette émission, nos deux experts seront plutôt à charge. Voici un deuxième témoin, Frédéric Lemanac de l'association Bloom, nous détaille la guerre que se livrent les navires de pêche au large du Sénégal et de la Mauritanie.
Il y a une guerre en cours parce qu'effectivement ce sont des zones qui sont très productives et tout le monde le sait. Donc tout le monde y va, soit légalement au travers d'accords de pêche qui sont établis par exemple entre l'Union européenne et certains pays africains sur la côte ouest ou même sur la côte est, soit illégalement parce que malheureusement il y a quand même assez peu de moyens de surveillance et de contrôle dans ces eaux-là. C'est déjà très compliqué de surveiller dans les eaux françaises, mais au large de l'Afrique c'est encore plus compliqué. Donc on a beaucoup aussi de navires asiatiques, russes, qui vont pêcher de manière illégale dans ces eaux-là. Et actuellement, on voit vraiment le développement aussi de la pêche qu'on appelle minotière, c'est-à-dire pour fabriquer de la farine et de l'huile pour l'aquaculture. Et ça, c'est en plein boom actuellement en Mauritanie, par exemple, au Sénégal, où on a notamment les Chinois qui investissent massivement dans les usines de transformation. Parce que tous les petits poissons, comme les sardinelles qui vont être pêchés dans ces eaux-là, très productives, vont ensuite servir soit à élever des carpes en Chine, soit à élever du saumon en Norvège. Et c'est une activité qui est extrêmement lucrative. Depuis quelques années, il y a vraiment eu un basculement. Donc là, on n'est plus à de la consommation principalement sauvage, on est passé à de la consommation principalement d'aquaculture. Voilà, il faut quand même savoir que quand on consomme un poisson qui a été élevé, c'est un poisson qui a été nourri aussi en grande partie avec du poisson sauvage. Donc on voit souvent l'aquaculture comme une solution à la surpêche. L'aquaculture peut en réalité contribuer à la surpêche également. Au large du Pérou, vous avez plusieurs millions de tonnes de poissons qui sont pêchés chaque année là-bas, et ça a représenté à un moment jusqu'à 10% des captures mondiales de poissons, simplement au large du Pérou. Vous avez aussi l'Afrique de l'Ouest, qui est une grosse zone de pêche minotière, et vous avez l'Atlantique Nord-Est, par exemple, le Danemark. Là, il y a une pêche qui a été certifiée pêche durable, donc on peut discuter aussi de ça, de ce que veulent dire ou non les labels de pêche durable, mais une pêche danoise, qui certifie 600 000 tonnes de poissons qui sont réduits en poudre pour l'aquaculture. 600 000 tonnes, c'est plus que le total de la pêche française chaque année.
Philippe Curie, vous connaissez bien cette zone. Comment est-ce que vous mettriez en perspective cette pièce à conviction en tant qu'expert à ce procès ?
Je dirais que ça, cet exemple, ça reflète le casse du siècle. C'est-à-dire que dans les pêcheries mondiales, on a fait croire à la durabilité des pêcheries en allant pêcher toujours d'autres espèces, en allant pêcher plus loin, en envoyant nos flottilles en Afrique, en pêchant plus profond, en pêchant d'autres espèces. Donc on a donné le sentiment que finalement cette exploitation a été durable sur le long terme, mais c'était, vous savez, une espèce de pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que ça s'écroule à un moment donné, on ne peut pas maintenir ces captures, même en ayant des astuces qui font croire aux consommateurs que c'est durable. Ce qui se produit, c'est que aujourd'hui, depuis les années 90, en réalité, les captures mondiales aient diminué.
François Sarano, vous partagez ce constat du casse du siècle ?
Complètement, complètement. Mais je crois que nous, les consommateurs, sommes la cause du 15 du siècle. Parce que nous, consommateurs européens, exigeons toujours plus de poissons, moins cher. Comme on est dans un monde où l'économie est, non pas libérée, mais dérégulée, ce qui est la négation de toute règle sociale et environnementale, nous poussons les pêcheurs qui, en définitive, font passer les poissons de l'océan dans nos assiettes, hein, et c'est nous, encore une fois, qui sommes la pompe aspirante, eh bien, nous poussons les pêcheurs à pêcher toujours plus en guerre. Nous poussons les pêcheurs en guerre économique. Le premier pêcheur qui va dire, oula, attendez, on a assez pêché pour cette année, il faut laisser des poissons pour qu'ils se reproduisent. Ben, c'est un autre pêcheur qui prend sa place. On a vu ça, même chez nous, en Bretagne, un certain nombre de pêcheurs très vertueux.
Il y a bien le conflit qu'il y a avec l'Angleterre en ce moment, par exemple, pour les quotas de pêche.
C'est-à-dire que le système qui a été mis au point autrefois par l'OMC, les accords du GATT, qui ont de plus en plus dérégulé l'économie, fait qu'aujourd'hui, les pays riches, nous sommes la pompe qui aspirons les ressources, ici, en poisson, de la planète. Et comme le disait très bien M. Curie, eh bien, on nous laisse croire, à nous, que tout va bien. Mais on est en train de piller les eaux du tiers-monde, affamer un certain nombre de gens et les écosystèmes. Parce qu'ici, on évoque les gens qui ne peuvent plus manger, mais les dauphins, les requins, les mérous qui se nourrissaient de ces sardinelles, les oiseaux, et bien, ils n'ont eux aussi plus à manger. Et là encore, je ne fais que répéter ce que le professeur Curie disait il y a 2 minutes, quand on laisse libre la nourriture aux méduses, ben, elles prennent la place. Si on enlève les sardinelles, ben, les méduses, je prends la place. Ce qui fait que nous, encore une fois, j'insiste, responsables. Et je dirais une dernière chose, le premier article de l'Europe pêche bleue, l'Europe bleue, c'est de satisfaire le marché européen. Et ce marché européen est en croissance de 1,5 par an. Ce qui veut dire que, comme le gâteau est fini, en gros 90 millions de tonnes par an dans le monde, on prend toujours plus, on détourne ces millions de tonnes vers nous, le marché chinois et le marché américain, et c'est fini. On ne peut pas aller plus loin. Voilà. Et ça, c'est bien notre responsabilité. Ce qui veut dire que maintenant, encore une fois, que nous savons, chacun sait, il ne pourra pas dire « je ne sais pas », nous devons changer. Et nous devons savoir que chaque fois que nous mangeons du poisson, c'est une denrée rare, exceptionnelle. Il faut surtout regarder ça comme si c'était du caviar. Et penser à ce qu'on mange, penser à ce qu'on fait.
Troisième pièce à conviction pour instruire ce procès, une vidéo avec vous, François Sarano. Alors c'est bizarre, vous me direz, une vidéo à la radio, mais je vous propose d'écouter le début et vous nous raconterez la suite.
Le sommeil des cachalots est demi-conscient. Ils savent parfaitement que nous sommes là. Et pourtant, et j'insiste, parce que nous venons en paix, avec respect et bienveillance, ces animaux sauvages, libres, indomptés, nous accueillent. Alors, je m'avance et tout d'un coup, je suis juste au-dessus du crâne de Irène Gueule Tordue, la matriarche du groupe. Irène dort, René Euzé, le caméraman, est à côté d'elle. Elle sait qu'il est là. Parfaitement. Vous voyez ici sa mandibule tordue. Voilà pourquoi elle s'appelle Irène Gueule Tordue. Et je descends derrière, juste pour vérifier qu'effectivement, elle a un œil ouvert et un œil fermé. Et cet animal sauvage et libre, qui nous a tant craint quand on l'a chassé, lorsqu'on l'approche avec respect, non seulement il vous tolère, encore une fois, dans ce moment. Vous vous imaginez un animal sauvage venir à côté de vous alors que vous êtes en pleine sieste? Cette image-là, pour moi, me bouleverse parce que ça montre que la réconciliation est possible, que nous pouvons faire l'effort du respect pour que notre relation avec le vivant change.
Voilà, François Sarano, nous avons plongé un bref moment avec vous, avec Irène Gueule Tordue, qui fait partie de cette famille de cachalots que vous suivez au large de l'île Maurice. On en profite pour saluer nos auditeurs de l'île Maurice au passage. C'est par l'émerveillement, à votre avis, qu'on va pouvoir se réconcilier avec la biodiversité de l'océan?
Je crois, parce que les chiffres sont nécessaires, les études scientifiques sont indispensables, mais les chiffres sont secs, ils ne parlent pas au commun des mortels. Il ne touche pas. Si je vous dis 90 millions de tonnes, 360 millions de kilomètres carrés, 240 000 espèces, vous restez indifférent. Donc, il faut utiliser d'autres récits, d'autres formes de langage pour que les gens se rendent compte de la vie qu'il y a autour d'eux. Il faut se reconnecter au vivant. Et une des manières, c'est de raconter des histoires et puis d'entraîner les gens sur le terrain, aller voir, aller toucher du doigt. Aujourd'hui, la plupart des gens qui vivent dans des cités, qui sont coupés dans un monde totalement virtuel, sont des gens hors sol, qui ne savent même plus le monde des oiseaux, des arbres ou des poissons. Quand j'étais enfant, moi, il y avait des chardonnerets, des rousserolles et farvates, il y a des pinsons. Aujourd'hui, à peine, il y a oiseaux.
Mais là, notre studio est installé face à la Méditerranée. La difficulté de l'océan, c'est qu'on voit à perte de vue une surface plane et tout le monde n'a pas, comme vous, la chance d'aller dessous.
Oui, mais le dessus et le dessous, aujourd'hui, c'est tellement interconnecté d'ailleurs. Mais on ignore parce qu'on ne prête plus attention. Et je crois que l'une des clés, c'est d'amener chacun à prêter attention à ceux, c'est eux, et ceux, C-U-U-X, qui nous entourent, et à leur redonner un nom et une singularité. Changer de temps, de rythme de vie. Si je dis bonjour en pensant à ce que je dis, que je regarde autour de moi, les arbres, les oiseaux, c'est plus facile que regarder sous la peau de l'océan. Eh bien, ça me permet de me reconnecter au monde et de me dire je fais partie de ce monde. Je suis différent, bien entendu, mais je suis moi parcelle de vivant aussi. Alors, après ça, pour nous, les plongeurs, qui sommes les témoins privilégiés de ce qui se passe sous la surface de l'océan, c'est plus facile de savoir ce qui s'y déroule. Et je comprends que 99,9% des gens qui n'ont pas l'occasion de mettre un masque et d'aller voir, tout ça soit une formidable boîte noire. Hein. Et même nous, scientifiques, plongeurs, nous ignorons la plupart des choses qui se déroulent dans cette formidable masse qu'est l'océan. Mais je pense que globalement, c'est notre attention aux autres qu'il faut changer. Que ce soit pour les animaux de l'océan ou les animaux et les végétaux, en tout cas toutes les autres créatures autour de nous, à terre.
Est-ce qu'il faut manger moins de poissons? Vous avez une dernière pièce à conviction, c'est une boîte à macro que vous avez apportée.
J'ai amené ma boîte à macro. Bien sûr, il ne faut pas manger d'espèces qui sont surexploitées, ni qui sont sur la liste rouge de l'IUCN. Je veux dire, c'est un nom
international pour la conservation de la nature qui vient de publier sa dernière liste.
Qui vient de publier,
liste rouge.
Il y a des espèces. Bon, il y a beaucoup d'espèces de requins qui sont en grand danger, d'espèces de raies, etc. Quel plaisir on a à manger une espèce menacée. Vraiment.
Mais encore faut-il le savoir, François Sarano, c'est ça la difficulté.
Notre association Longitude 180 a une campagne qui s'appelle « Pas de requin dans mon assiette ». Elle est destinée aussi aux restaurateurs et aux pêcheurs. « Pas de requin sur mon bateau ». On travaille avec des pêcheurs en Algérie. On a mis partout les requins à préserver pour qu'ils remettent à l'eau, quand ils sont encore vivants, les espèces qui sont aujourd'hui en danger critique d'extinction en Méditerranée. Elles le sont presque toutes, les espèces de requins et de raies. Donc, il faut, je crois, constituer un socle de citoyens sur lequel les mesures qui devront être prises vont pouvoir s'asseoir. Nous, les consommateurs, avons la clé. Parce qu'il est bien difficile de faire bouger des multinationales. En revanche, si le consommateur ne tire pas, n'appelle pas la demande, ne consomme pas telle ou telle chose, alors elle se réoriente. Elle se réoriente. Nous sommes la clé. Et puis surtout, je pense que, quelle que soit l'action au niveau des autorités, ça a un sens de se donner un sens dans sa vie, de faire quelque chose, de savoir que c'est nous qui sommes responsables. Moi, je ne veux pas avoir dire à ma petite fille, ouah, quand j'étais chez Cousteau, j'ai nagé avec le grand requin blanc, avec le crocodile de mer, avec les raies manta, avec les baleines, les cachalots. Je suis désolé. Je ne peux pas te les transmettre. Je les ai bouffés. Pire. Je savais, encore une fois, depuis 1992, le sommet de la Terre à Rio, tous les chefs d'État ayant signé la feuille de route Agenda 21, nous savons comment les choses se passent. Nous savons les causes du désastre, nous savons les remèdes à y apporter. Donc, encore une fois, nous le faisons en connaissance. Je ne veux pas avoir dire ça à ma petite fille. Par conséquent, on avance, on s'engage, on essaye de demander aux gens de se reconnecter et à chacun, juste après cette émission, s'il vous plaît, décidez de changer une chose, une toute petite chose que vous allez pouvoir tenir. Je ne sais pas, changez de shampoing, prenez une lessive plus durable qui, tout d'un coup, agressera un petit peu moins l'océan. Et puis, vous allez voir, c'est très facile. Dans 3 jours, changez encore une chose. Ne prenez plus votre voiture pour faire ça. Encore une chose, dans 4 jours. Et ces petites choses vous amènent à vous libérer formidablement et à savoir que le changement est possible. Et la dernière chose que je veux dire, pensez pour qui vous faites ça. À qui c'est destiné? Moi, je pense à ma petite fille. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que le changement, si vous ne savez pas pour qui le faire, vous ne pouvez pas le faire. Le changement sera altruiste ou il ne sera pas. Si on pense à ces petits égoïsmes, c'est foutu. Pensez à ceux que vous aimez, c'est pour eux que vous le faites. Et après, soyez contagieux.
C'est l'heure du verdict. Alors, François Sarano, coupable, non coupable, circonstances atténuantes ou pas ?
Coupable et responsable avec bonheur, un infini bonheur. Parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'océan est quand même résilient. Et que chaque fois qu'on prend des bonnes mesures, une réserve marine, et Dieu sait si, on en a une qui est pas très loin, toute petite, minuscule, Port-Cros, et on retrouve une Méditerranée qui était celle qu'on connaissait dans les années, 50, c'est formidable. Et dès qu'on prend des mesures spécifiques, les cachalots, les cétacés, c'est formidable. On a arrêté la chasse en 80. Aujourd'hui, les cachalots qui nous fuyaient, moi quand j'étais sur la Calypso, on ne pouvait pas nager avec les cachalots. Ils nous fuyaient, ils entendaient le bateau, ils partaient. Aujourd'hui, on se met à l'eau et c'est eux qui viennent. Ils vous accueillent, ils viennent vous voir. C'est merveilleux. Toutes ces petites choses montrent que c'est possible. Oui, c'est possible. Ça vaut donc la peine de se battre. Rejoignez les associations, lisez les rapports du GIEC, lisez les rapports d'experts. Et s'ils sont trop compliqués, faites confiance aux associations qui se battent. Rejoignez-les. Parce que quand on joue, on gagne à tous les coups à ce jeu-là. Donc c'est possible, nous pouvons offrir à nos enfants, très facilement, une mer plus riche que celle que nous connaissons aujourd'hui.
Et puis Philippe Puri, c'est un enjeu de justice sociale, parce que finalement, c'est comme pour le changement climatique, la biodiversité, ce sont toujours les pays riches qui se gavent et les pauvres qui payent l'addition.
Bien sûr, on le voit, le système économique actuel engendre des inégalités de plus en plus criantes, avec des concentrations de pouvoir qu'on a mentionnées, et ça c'est l'ODD numéro 13, plus équitable.
Objectif du développement durable.
Développement durable, et c'est un des grands objectifs humanitaires.
Et donc, avec plus de résilience, de conscience, on peut mieux répartir, vous pensez, la biodiversité à l'échelle de l'océan ?
Bien sûr. Et puis, puisqu'on parle des ressources marines, vous voyez, aujourd'hui, on importe 90% en Europe de nos poissons blancs. Donc, tous les poissons qu'on consomme, le lieu, le morue, etc.
On les pille ailleurs.
Voilà, qui vient d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, il y a aussi un problème de répartition de ces richesses. Et c'est tout simplement un problème de survie, parce que vous savez, qui va être impacté le plus par le changement climatique ? C'est toute la zone intertropicale qui, déjà, va souffrir de l'impact du changement climatique, qui fait fuir les poissons, d'ailleurs, vers les pôles. Et donc, voilà. Donc, si on ne traite pas ce sujet-là en priorité, je dirais que les autres objectifs sont irréalisables. Donc, ces équilibres nord-sud, ces problèmes d'équité et d'égalité.
François Sarano, vous qui faites de nombreuses conférences pour sensibiliser, justement, est-ce que vous sentez que tous les milieux sociaux sont concernés, que y a pas de, c'est pas pour l'instant uniquement un problème élitiste ?
Certainement pas, mais il se trouve que le dérèglement de notre consommation qui cause tant de tort à la planète est explosif. Donc nous ne voyons pas qu'il y a aussi une explosion de prise de conscience. On voit aujourd'hui des tas de jeunes qui essayent de vivre autrement. Il faut qu'on ait de l'égard, de la considération pour les autres êtres vivants et que nous pensions à chaque fois: est-ce qu'il est bon que je prélève sa vie ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est équitable ? Il faut qu'on réfléchisse à ce que nous faisons sur cette planète et comment, encore une fois, être mieux avec moins et plus de relations. C'est indissociable. Pourquoi souvent on consomme ? Parce qu'on est dans un mal-être existentiel terrible et donc on se rue dans les magasins pour acheter des choses en espérant trouver une sorte de plaisir. Il suffit donc de retrouver du lien entre nous, pour ne plus avoir à consommer excessivement.
Coupable, mais condamné à penser le futur avec bonheur.
On peut mieux faire. On peut mieux faire.
Eh bien voilà, ça sera la conclusion. Merci à tous les deux d'avoir participé donc à ce procès du siècle. Les procès du siècle, c'est tous les lundis soirs à Marseille, dans l'auditorium du MUCEM à 19h jusqu'à fin mars.
C'était le podcast Le procès du siècle,
Délibération citoyenne.
Une série réalisée en partenariat
avec les amis du MUCEM, Libération, Magma et RFI.
Merci de l'avoir écouté et rendez-vous au prochain épisode.